VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Nathalie Barge.
Bonsoir, au sommaire de cette édition du 15 juin 2017. 18 morts dans des attaques d'islamistes Shebab à Mogadiscio hier soir. L'épouse du futur Premier ministre du Lesotho a été assassinée. Les violences contre les opposants au Burundi continuent selon une commission indépendante de l'ONU. Bujumbura rejette l'accusation. Theresa May ordonne une enquête sur l'incendie meurtrier d'une tour de Londres. Et Donald Trump qualifie d'histoire bidon l'enquête sur une ingérence présumée de la Russie. Et l'économie et les sports, ce sera juste après le journal. Au moins 18 personnes ont été tuées dans l'attaque hier soir de deux restaurants à Mogadiscio par un commando d'islamistes Shebab, Solange Niamoulissa.
L'attaque a débuté mercredi soir vers 20h par l'explosion d'un véhicule piégé contre deux restaurants voisins. Parmi les 18 victimes figure un cuisinier syrien. 10 personnes ont également été blessées, dont le restaurant Club Post Street, très populaire parmi les jeunes de la capitale. 5 assaillants armés ont ensuite attaqué le restaurant voisin, Pizza House, bondé à 7 heures de rupture du jeûne. Le porte-parole du ministère de la Sécurité, Mohamed Ahmed Arab, a affirmé que tous les assaillants ont été tués par les forces de sécurité. Cette attaque est la première menée par les Shebab à Mogadiscio depuis le début du Ramadan. Les Shebab, affiliés à Al-Qaïda, sont en lutte depuis une décennie contre les autorités somaliennes.
Un rapport oral d'étape d'une commission indépendante de l'ONU accuse Bujumbura de torture et d'assassinat d'opposants, des allégations niées par le régime burundais. Eric Manirakiza.
Devant le Conseil des droits de l'homme à Genève, les enquêteurs de cette commission sur le Burundi ont confirmé que les tortures et les assassinats d'opposants n'ont pas cessé. Ils pointent du doigt les agents de l'État, la Ligue des jeunes du parti au pouvoir Imbonerakure et des groupes d'opposition armés impliqués dans des actes de torture, des violences sexuelles, des disparitions forcées et des assassinats. Cependant, ils reconnaissent qu'ils n'ont pas été autorisés à se rendre sur le terrain et ne s'appuient que sur les témoignages recueillis auprès des réfugiés. Le ministre burundais des droits de l'homme, Martin Ivyabandi, a rejeté les conclusions de ce rapport. Créée en 2016, cette commission d'enquête de l'ONU a le mandat d'établir des crimes de droit international et d'identifier, le cas échéant, les auteurs de ces violations. Le rapport final est attendu en septembre prochain devant le Conseil des droits de l'homme. Selon l'ONU et plusieurs ONG, entre 500 et 2000 personnes sont mortes et plus de 400 000 Burundais ont fui leur pays depuis fin avril 2015.
L'épouse du nouveau Premier ministre du Lesotho, Thomas Taban, a été tuée par balle. Le récent vainqueur des élections législatives sera investi demain vendredi. Eki Abadou.
L'Ippoleto Tabané, 58 ans, en instance de divorce depuis des années avec M. Tabané, a été abattu au sud de la capitale Maseru. L'assassin a ouvert le feu sur Mme Tabané qui est morte sur le coup, alors que l'autre femme qui l'accompagnait est toujours entre la vie et la mort. L'identité de l'assaillant qui a pris la fuite n'est pas encore connue. Le futur Premier ministre est remarié à une autre femme, mais s'est dit choqué par la mort de sa première épouse. Il doit être investi demain au stade de Maseru et devra former un gouvernement de coalition. Son parti, la Convention des Basotho, communément appelée ABC, s'est imposé lors du scrutin du 3 juin en emportant 48 sièges sur les 120 que compte le Parlement.
L'armée nigériane a annoncé qu'aucune enquête ou poursuite ne serait engagée contre des hauts gradés mis en cause dans un rapport d'Amnesty International pour des exactions commises dans le conflit avec les islamistes. Le rapport publié en 2015 citait 6 commandants en activité et à la retraite accusés d'être responsables de meurtres, tortures et disparitions. Plus de 1200 personnes ont été tuées, des milliers d'autres arrêtées de manière arbitraire pendant les 8 années de conflit selon l'ONG. La médiatrice sud-africaine de la République a annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire après la révélation dans la presse de milliers de courriels accusant le président Jacob Zuma et ses proches de corruption dans l'attribution de marchés publics. Les entreprises visées sont la compagnie ferroviaire Transnet, le transporteur Prasa et l'électricien Eskom, dont le PDG Brian Molef, un proche du chef de l'État, a été remercié, réinstallé puis à nouveau démis de ses fonctions. Le procès de 25 Sahraouis pour l'assassinat de 11 membres des forces de l'ordre marocaines en 2010 touche à sa fin ce jeudi près de Rabat, avec un verdict attendu début juillet. Les plaidoiries de la défense ont débuté hier devant le tribunal de Salé. À l'issue d'une audience mardi, le procureur avait requis de lourdes peines sans les spécifier, tout en laissant au tribunal la possibilité de requalifier les faits.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Donald Trump a-t-il fait obstruction à la justice américaine dans l'enquête sur une éventuelle ingérence russe ? Le procureur spécial qui chapeaute l'investigation s'intéresse à cet aspect selon les médias américains. John Lyndon.
Robert Mueller, ancien chef du FBI, veut déterminer si le président américain a tenté de freiner ou bloquer l'enquête sur cette ingérence et une possible collusion entre les proches de Donald Trump et la Russie. La révélation a été faite par le Washington Post qui cite des sources anonymes. Le New York Times a également publié les mêmes informations. Le grand quotidien de la capitale affirme par ailleurs que les enquêteurs sont à la recherche de potentiels délits financiers chez les collaborateurs du milliardaire républicain. Le procureur Mueller aurait sollicité des entretiens avec 5 responsables du renseignement. Ces entretiens pourraient s'éteindre dès cette semaine, selon le Washington Post. Le président américain, qui a souvent parlé de chasse aux sorcières, a fait un tweet ce matin en disant, et je cite, « Ils ont fabriqué une collusion bidon avec l'histoire russe. Ils n'ont trouvé aucune preuve et maintenant, ils se lancent dans l'entrave à la justice sur cette histoire bidon. »
Le président russe Vladimir Poutine s'est d'ailleurs moqué de la déposition de l'ancien patron du FBI, James Comey, limogé par Donald Trump alors qu'il enquêtait sur l'éventuelle ingérence de Moscou et a proposé sur le ton de la plaisanterie de lui donner l'asile politique. S'exprimant dans une émission annuelle de questions-réponses, il a également accusé les États-Unis d'ingérence partout dans le monde. Le président russe a par ailleurs dénoncé l'adoption de nouvelles sanctions contre la Russie par le Sénat américain. Le Sénat a approuvé mercredi un projet de sanctions qui empêcherait le président Donald Trump de relâcher unilatéralement la pression sur Moscou, accusé par Washington d'ingérence dans la campagne présidentielle américaine de 2016. En Syrie, un nouveau couloir humanitaire pour ravitailler les personnes fuyant le groupe État islamique et le siège de Raqqa devait être ouvert ce jeudi. Selon l'ONU, des dizaines de milliers de personnes ont fui, mais l'accès à cette région perdue reste toujours difficile. L'ONU a mis en place un système de livraison de colis par voie aérienne à Kamishli, au nord-est de Raqqa, à partir de Damas. Le bilan des victimes de l'incendie qui a dévasté une tour de logements sociaux à Londres s'est alourdi à 17 morts. La recherche de nombreux résidents portés disparus peine à progresser dans le bâtiment très instable. La première ministre Theresa May, qui s'est rendue sur place dans la matinée, a ordonné l'ouverture d'une enquête publique sur l'origine de l'incendie survenu dans la nuit de mardi à mercredi. L'épidémie de choléra au Yémen a fait près de 1000 morts, a annoncé un haut responsable de l'ONU. Le temps presse pour sauver les gens qui sont tués ou qui meurent de faim. Et maintenant, le choléra vient encore compliquer les choses, a déclaré le coordonnateur de l'ONU au Yémen, Jamie McGoldrick. Nous nous battons pour faire face en raison du manque de ressources. Il y a besoin d'une action immédiate, a-t-il insisté lors d'un point de presse dans la capitale jordanienne, Amman. Le groupe État islamique a pris le contrôle de Tora Bora dans l'est de l'Afghanistan, où Oussama Ben Laden s'était retranché pour échapper aux Américains après le 11 septembre. Le réseau de grottes particulièrement difficile à pénétrer avait alors fait l'objet d'une âpre bataille et de bombardements intenses en décembre 2001, jusqu'à ce que Ben Laden gagne les zones tribales et se réfugie au Pakistan, où il a été abattu lors d'un raid des forces spéciales américaines en 2011. Une explosion devant une école maternelle de l'est de la Chine a tué au moins 7 personnes et fait 59 blessés, a annoncé la télévision nationale. Une enquête a été lancée sur les causes de la déflagration, a indiqué la police locale. L'explosion s'est produite dans l'après-midi pendant la sortie de l'école. Et le père de l'étudiant américain rapatrié aux États-Unis dans le coma après sa détention en Corée du Nord a déclaré qu'il n'y avait aucune excuse à la façon dont Pyongyang avait traité son fils Otto Wambir. L'étudiant de 22 ans se trouve dans un état stable mais souffre de graves lésions neurologiques, a déclaré une porte-parole d'un hôpital de Cincinnati où il est soigné. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Claire Morin-Gibourg.
Dans le cadre de sa lutte contre la corruption, l'ABAD a placé la société chinoise Sinohydro Corporation sous surveillance pendant 36 mois suite à la découverte de pratiques frauduleuses dans le cadre d'un appel d'offres pour des travaux en Ouganda. En outre, Sinohydro s'est engagé à coopérer avec le Bureau de l'intégrité de la lutte contre la corruption dans la conduite d'autres enquêtes sur des projets financés par l'ABAD. En Afrique de l'Ouest, les banques ont abaissé leurs taux débiteurs au premier trimestre 2017. Le Bénin, le Sénégal et le Burkina ont tous une baisse moyenne de 22 points, mais le Togo affiche une baisse de 85 points et le Niger de 99 points. Seule la Côte d'Ivoire observe une hausse de 27 points. Au Ghana, le risque de surendettement pourrait s'accroître à l'issue de la prochaine émission obligataire, a averti le FMI hier. Il y a quelques semaines, les autorités ont annoncé vouloir mobiliser 10 milliards de CDIS, soit 2,3 milliards de dollars, pour apurer les dettes de la Société nationale d'électricité et des fournisseurs de services pétroliers publics.
À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Cheikh Tiote de retour à Abidjan.
Oui, le corps du joueur ivoirien est arrivé ce matin à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Cheikh Tiote est décédé subitement le 5 juin dernier lors d'un entraînement avec son club en Chine. Le milieu de terrain ivoirien avait 30 ans. Et pour l'occasion, Hervé Renard, Kolo Touré, Bonny Wilfried, Max Gradel et d'autres footballeurs étaient présents. On écoute l'international ivoirien Salomon Kalou.
C'est un moment très triste parce que voilà, je sais que ça reste quelqu'un qui sera à jamais dans nos mémoires et il a toujours été celui-là même qui a donné 200% sur le terrain et en dehors du terrain, quelqu'un de très gentil, de très humble.
L'international ivoirien Salomon Kalou au micro VOA Afrique de Georges Ibrahim Tunkara. L'inhumation est prévue dimanche à Abidjan.
Début de la 5e édition du Tour cycliste de la RDC.
En effet, premier coup de pédale ce jeudi à Goma. Cette première étape est remportée par le Français Noël Richet. Il prend le maillot jaune avec 3 secondes d'avance sur le Belgo-Tunisien Ali Norsi. Le premier Africain est un coureur congolais, Jimmy Muindo, jeune de Goma, arrivé à la 4e position de ce circuit fermé de 100 km. Sachez que 80 athlètes des différentes équipes d'Afrique et d'Europe vont courir en tout 750 km durant 7 jours pour les 8 étapes de la course pour finir à Kinshasa, la capitale. Deuxième étape demain à Kindu.
La CAF a publié le calendrier du tour préliminaire africain de la Coupe du Monde 2018 féminine des moins de 20 ans.
Et oui, le Burundi et Djibouti s'affronteront. La Libye défiera la Sierra Leone et le Kenya sera aux prises avec le Botswana. Les matchs allés se disputeront le mois prochain.
Marché des transferts Galatasaray, c'est presque fait pour Younes Belanda.
Younes Belanda est bien parti pour évoluer dans le club turc la saison prochaine. Le club stambouliote aurait bouclé l'arrivée de l'international marocain, prêté à l'OGC Nice la saison dernière et auteur de 31 matchs en Ligue 1. Galatasaray serait prête à payer 8 millions d'euros pour recruter l'ancien Montpellierien pour un contrat de 4 ans. Autre arrivée à Galatasaray, celle de Bafétémi Gomis, auteur de 20 buts en Ligue 1 cette saison.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers d'actualité. La société civile ivoirienne s'inquiète de la situation politique dans le pays, qui a vécu une crise post-électorale meurtrière en 2010-2011. La réconciliation nationale promise par l'actuel régime tarde en effet à se concrétiser. Le chanteur Alpha Blondie a appelé à la libération de tous les prisonniers politiques pour aboutir à cette réconciliation. Abdourahmane Dia a joint à Abidjan Julien Fernand Gauze, président d'Agir pour la démocratie.
Il y a toute une série de situations qui sont totalement explosives. La vérité, c'est qu'on n'a pas le sentiment que la réconciliation réconcilie vraiment les Ivoiriens autour d'elle et que le bilan soit partagé de la même façon par tout le monde, avec des éléments qui soient de nature à conforter quant à une véritable réconciliation effective en Côte d'Ivoire.
L'ex-président Laurent Gbagbo est à la haie, l'ex-première dame est en prison en Côte d'Ivoire pour une peine de 20 ans. Quelqu'un comme Alpha Blondie pense qu'il faut libérer tous ces prisonniers politiques pour vraiment pouvoir arriver à la réconciliation nationale. Vous pensez que c'est peut-être la voie à suivre?
Alors, par rapport aux prisonniers politiques, il y a un discours également politique qui est différent. Le chef de l'État a soutenu à plusieurs reprises qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire et que ceux qui étaient poursuivis l'étaient pour des raisons qui n'ont pas un caractère politique. Mais chacun de nous sait que la plupart des personnes qui ont été arrêtées sont presque à 100% en rapport avec les événements de 2011. Tous ceux qui ont été arrêtés en rapport avec ces événements sont à 100% du camp du président, de l'ancien président Laurent Gbagbo. Donc l'opinion publique en tire la conclusion qu'il s'agit des prisonniers qui sont en rapport avec des faits politiques, donc qui sont des prisonniers politiques. Et si leur libération peut favoriser un dégel et une situation de paix, au moins apparente, ce sera déjà ça.
Alors, la Côte d'Ivoire aura d'autres élections présidentielles en 2020 sans l'actuel chef de l'État. Au vu de la situation actuelle, vous êtes confiant qu'on se dirige vers des élections paisibles, comme ça a été plus ou moins le cas en 2015?
Je ne crois pas. Je ne crois pas personnellement. Tout récemment, j'ai suggéré qu'on partage sur les réseaux sociaux un hashtag. J'ai appelé Côte d'Ivoire 2020, c'est maintenant, pour interpeller les uns les autres en demandant que chacun prenne conscience qu'une élection ne se prépare pas, ne se déroule pas sans préparation préalable. Les élections les mieux réussies, c'est celles qui sont préparées dans un consensus national sur un long terme. Et faute de quoi, il y a une partie de la population qui se sentira concernée par ces élections, une autre partie qui sera hostile et qui, si elle en a les moyens, ne fera rien pour perturber ou douter même de la légitimité des organes ou des institutions qui sortiront ces élections.
C'était Fernand-Julien Gauze, président de l'organisation Agir pour la démocratie en Côte d'Ivoire.
Un immeuble de 7 étages s'est effondré dans la nuit de lundi à mardi à Nairobi. Au moins 2 personnes ont trouvé la mort. De nombreux édifices des quartiers populaires au Kenya ont été construits au mépris de toutes les règles. Que pensez-vous de constructions anarchiques en Afrique? Les normes de construction sont-elles respectées chez vous dans votre pays? Rendez-vous ce soir à 18h temps universel pour donner votre avis sur VOA Afrique en compagnie d'Eric Manier. Laissez-nous vos numéros et commentaires ou appelez au 001 202 205 26 33 001 202 205 26 33. À tout à l'heure.
Au Burundi, dans beaucoup de provinces et surtout dans la capitale, des petits monuments sont érigés sur les voies publiques ou au bord des grandes routes où l'aigle et l'épée sont dessinés, un symbole du parti au pouvoir. Pour le parti présidentiel, ces monuments montrent la présence de ses membres qui se chiffrent par millions. Mais l'opposition pointe du doigt ce qu'elle qualifie de monopartisme de fait. Reportage de notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Petits, moyens ou grands monuments sont construits dans certains endroits au bord des routes de différents quartiers au nord de Bujumbura. Même sur la route Bujumbura-Gatumba menant vers la frontière avec la République démocratique du Congo, il est difficile de faire 200 mètres sans voir des petites constructions où sont inscrites des phrases comme « Le CNDD-FDD est fort » ou que « Le parti CNDD-FDD est le sauveur des Burundais » en langue nationale. La commissaire à l'information du parti au pouvoir, Nancy Ninette Moutoni, donne la signification de ces symboles du parti.
Les monuments du parti, ce sont des signes ou des symboles qui marquent la présence du parti dans une localité quelconque. Ce sont les membres de notre parti à la base qui s'organisent et qui démontrent la présence du parti et la force du parti dans leur localité. Et dans la structure la plus à la base, celle qu'on appelle en langue nationale Inamashingiro.
À ceux qui pensent que le pays des mille et une collines fait un retour vers un monopartisme, comme c'était le cas vers les années 60, 70, 80, Moutoni dément.
Non, c'est pas un retour au monopartisme. Nous soutenons le multipartisme, mais les partis n'ont pas tous des membres au nombre égal. Donc, si certains partis n'ont pas de membres dans une localité quelconque, ne vous attendez pas à voir un monument de ce parti là-bas. Ça reflète la puissance du parti, ça reflète leur fierté d'appartenir au parti CNDD-FDD.
Le Burundi compte plus de 40 formations politiques agréées par le ministère de l'Intérieur. Zeno Nchaenzi est le président du parti pour le redressement national parrainant en sigle. Il estime que le parti CNDD-FDD est bel et bien présent dans beaucoup d'endroits et cela fait peur à ses militants.
Un peu partout est érigé des monuments sur lesquels il y a des écriteaux qui font un peu peur. Des écriteaux qui disent qu'ils ont acquis le pays difficilement, ils ne vont pas le lâcher. Ce qui montre que finalement ils chantent la démocratie mais ils n'y croient pas. Quand il n'y a pas alternance, c'est que quelque part il y a une faille au niveau sociétal. Si le CNDD chante haut et fort qu'il ne lâchera pas, ça fait peur.
Pour le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Terence Nairaja, tout le monde peut construire un monument à son effigie dans sa propriété, même les autres formations politiques de l'opposition.
Il est normal à chaque parti politique d'y mettre, soit une permanence ou son essai, c'est tout à fait normal, à que ceux qui soient laissés de sa place. Dans sa propre parcelle, c'est tout à fait normal.
Pour une autre figure de l'opposition encore présente au Burundi, Léonce Ngendakumana, le Burundi est déjà tombé dans un parti-État comme si les autres partis n'existent pas. Pour le vice-président du parti Front pour la démocratie au Burundi, Frodebou, en sigle, un autre parti de l'opposition qui tenterait de le faire aujourd'hui serait rayé de la liste des formations politiques et les responsables mis en prison. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
À quoi ressemblera la capitale de la RDC en 2050? Cet artiste futuriste congolais se sont penchés sur cette question en usant de leur talent créatif. Réalisé avec le soutien de l'Institut français de Kinshasa et l'Institut Goethe via le Fonds culturel franco-allemand, leurs œuvres font l'objet d'une exposition intitulée Kinshasa 2050, Digital City, ville digitale. Ils ont donc mis l'accent sur le développement numérique et les nouvelles technologies. Jacques Aristide s'est entretenu avec l'un des artistes, Jean-Jacques Tankwe.
Il y a eu 50 projets qui ont été déposés et il y a eu 7 projets qui ont été retenus, financés à l'auteur de 1 000 $.
L'occasion également pour de jeunes artistes congolais, artistes futuristes notamment, de faire montre de leur talent, parce qu'évidemment, il y en a en Afrique, mais on ne les voit pas assez, n'est-ce pas?
Oui, c'est vraiment une opportunité, parce que la thématique, c'était vraiment futuriste. Alors, il y a beaucoup de jeunes créateurs, artistes qui travaillent sur la thématique, mais n'ont pas l'opportunité de se mettre à découvert, de se faire valoir, et je pense que ça a donné quand même une certaine palette. C'est vrai que 7 projets, c'est pas beaucoup, c'est parti de cette aventure, voilà.
Parlez-nous des projets présentés.
Il y a eu un travail d'astronaute Kissi, de Hilary Balou, c'est un artiste visuel. Il y a eu un projet de Iviar, qui est un mobilier urbain. Matang Anoa, qui a présenté la ville du futur. Josna Chamala, qui a présenté aussi un tableau avec des disques CD usés, utilisés. Pour ma part, moi, j'ai présenté un canapé connecté Kinkitoko. Je me suis dit à Kinshasa, ça sera une ville connectée en 2050. Éventuellement, les intérieurs seront connectés et on aura aussi des objets connectés. Alors, comme je travaille déjà sur un canapé, alors j'ai directement lié l'objet connecté à un canapé connecté de 2050. C'est pourquoi mon projet a porté sur le thème de Kinkitoko, parce qu'en 2050, je me dis que Kinshasa sera la belle et elle sera la belle avec ce canapé qui va donner l'opportunité aux gens de se connecter à plusieurs, parce que le canapé d'aujourd'hui ne parle pas, ne bouge pas, ne réagit pas. Alors le canapé du futur va réagir, va bouger, va saluer les gens. Le matin, vous vous réveillez, il vous salue.
Alors, si vous me le permettez, avec l'avancée de la technologie, peut-être qu'on pourra voir réaliser votre canapé connecté, peut-être même avant 2050.
Oui, bien sûr. En fait, le projet, c'est une projection 2050, mais j'y travaille déjà. Tu as bien compris la chose. J'ai associé dans ce projet le design avec le numérique, que je n'ai jamais fait. Je pense que c'est vraiment l'avenir. Et s'il y a des personnes qui sont intéressées à pouvoir nous accompagner dans ce rêve, et pourquoi pas, je suis très disposé, quoi.
Quelle a été la réaction du public?
Le public l'a été vraiment très enthousiasmé. Il y a beaucoup de gens qui sont venus le jour du vernissage, qui a été le 13 mai. Spécialement, moi, sur mon projet, j'en ai beaucoup, beaucoup de gens qui ont été surpris, en même temps très intéressés, heureux de voir ces choses se réaliser à Kinshasa.
Le designer Jean-Jacques Tankwe était joint à Kinshasa en RDC.
Washington Forum ce jeudi, on fait l'état des lieux des services d'urgence en Afrique. Du Sénégal au Cameroun, les problèmes se ressemblent. Taux de mortalité, manque de matériel et prise en charge des services d'urgence des hôpitaux en ville ou en province. Pourquoi tant de mortalité? À quoi ressemblent les formations des urgentistes? Quelle politique de santé pour gérer les urgences? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel avec Tatiana Mosso et ses invités.
Le 5 juin dernier, l'international ivoirien Cheikh Tiote succombait à une crise cardiaque en plein entraînement, relançant le débat sur la pratique du jeûne pour les sportifs de haut niveau. Au Sénégal, les amateurs profitent du ramadan pour avoir un peu de répit, tandis que les professionnels doivent se conformer à la volonté des structures auxquelles ils appartiennent. Voici un reportage de Seydina Abagay.
Les parcours sportifs, salles de gym ou de musculation, terrains de basket ou de football sont relativement déserts durant ce mois de ramadan. Madjama Sall, gérant d'une salle de sport à Dakar, indique qu'il est obligé de réaménager son programme car les clients se font rares.
Les horaires changent car avec le ramadan, nous sommes obligés de nous conformer à certaines réalités. Le matin, on ne travaille pas souvent car les rares pratiquants qui viennent le font après la rupture du jeûne. On est parfois sollicité par des clients qui n'observent pas le jeûne, mais on préfère réadapter le programme en fonction du plus grand nombre.
Dans le monde professionnel, il est difficile, voire impossible, de changer la routine en fonction du ramadan. Au Casa Sport, club Fagnon du sud du Sénégal, les activités physiques se déroulent sans ménagement. Richard Sagna, joueur de l'équipe première, estime que le sport est incompatible avec le ramadan.
Ça se passe comme d'avant, rien n'a changé, l'intensité, tout est là. Donc ça passe pas quoi, parce que dans le sport, tu cherches la force. Tu cherches la concentration. À la fin de l'entraînement, ils baissent tous le rythme. Ça se voit carrément que le ramadan et le football, bon, c'est deux choses opposantes, quoi. Mais tu sais, parfois, c'est l'éducation, quoi. C'est l'éducation à la base. Si tu as l'habitude de jeûner depuis tout petit, bon, je vois pas une chose qui va t'empêcher de jeûner, quoi.
De son côté, le staff médical du club juge que le ramadan a une influence minime sur le rendement des joueurs. Abdou Souleymane Sagna, membre du corps médical du club.
L'expérience et même les constats ont montré que beaucoup de sportifs observent le jeûne et qui ne les empêchent pas de faire leur sport correctement. Sauf que peut-être à la limite, ils manqueront peut-être d'éléments énergétiques et même d'eau pour faire fonctionner correctement leurs cellules. Mais je ne pense pas que ça puisse vraiment entraîner une crise cardiaque ou bien alors la relation de cause à effet sera un peu quand même éloignée.
Abdou Souleymane Sagna ajoute que le réel danger pour les joueurs professionnels est le manque de prise en charge médicale adaptée.
Il n'y a pas vraiment d'institution vraiment bien spécialisée pour une visite de non-contre-indication à la pratique sportive minutieuse ici au Sénégal. Il n'y a pas d'institution ni d'installation adéquate pour ça. C'est sûr que le risque est vraiment croissant. Et quand vous voyez un joueur qui se blesse aujourd'hui pour qu'il revienne dans cette ligue-là, alors le championnat est fini parce que la prise en charge est...
Et voilà, c'est la fin de cette édition. Restez sur VOA Afrique en compagnie de Henri Francisque pour les nouvelles du jour. À très bientôt. Au revoir.